Bien le bonjour à tous, bienvenue sur la toute première émission de Blaise Radio. Ici Manuela, votre animatrice radio, accompagnée de la co-animatrice Michaela. Michaela, bonjour. Nous sommes aussi avec la présentatrice Emmanuelle.
Bonjour.
Et les chroniqueurs Nora, Iman, Lola, Esteban et Maeva.
Bonjour.
On démarre sur une toute nouvelle émission donnant toutes les infos croustillantes concernant le lycée. Dès cette semaine, le journal du lycée sera présenté par Emmanuel, suivi de l'interview de l'invité surprise. Une invitée exceptionnelle pour cette première émission, puisqu'il s'agit d'une autrice de bande dessinée bien connue. Elle a vendu plus d'un million d'exemplaires de sa fameuse bande dessinée. Voici un extrait de son interview que vous allez entendre au cours de l'émission. Certains la reconnaîtront peut-être.
Alors, ça c'est une belle question et j'ai pleuré parce que quand je suis retournée à Abidjan, c'était 14 ans plus tard.
Vous entendrez aussi Nora qui est allée voir pour nous Black Panther. Ce n'est surtout pas fini. On va terminer avec deux accrochantes chroniques parlant d'histoires complètement différentes. Restez à l'écoute. Vous ne serez surtout pas déçus. Du coup, on a créé des comptes sur les réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, Insta et TikTok, Blaise Radio tout en minuscules. C'est déjà l'heure du journal de Blaise Pascal. Je vous laisse donc pour la suite avec Emmanuel.
Blaise Pascal, le journal d'information.
Bonjour Manuela, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le premier journal de Blaise Radio, en direct du Forum des métiers. Nous sommes dédiés à vous diffuser les informations et les actualités de notre lycée. C'est donc la première émission de Blaise Radio, la radio du lycée Blaise Pascal. Pour l'occasion, notre reporter Manuela est allée à la rencontre des élèves pour savoir ce qu'ils attendent de ce média lycéen. Vous entendrez son reportage. Au programme également, la grande collecte de fonds pour les produits d'hygiène féminin qui s'est tenue au lycée en fin novembre grâce à l'association Ivory Association. Le reportage de Nora et Glory vous apportera plus d'informations. Enfin, notre reportrice Michaela vous dévoilera le déroulement de la visite du camp militaire du BIMA. En bref, à l'occasion de la journée de lutte contre le VIH et le SIDA, qui s'est déroulée le 1er décembre, le lycée a organisé devant l'entrée de l'établissement une distribution de flyers et de rubans rouges visant à sensibiliser aux gestes de protection et au dépistage. Une web radio pour Blaise Pascal, Blaise Radio. C'est le nouveau projet de la rentrée 2022. Une dizaine d'élèves du lycée produiront chaque mois une émission de radio. Mais est-ce que les élèves en ont entendu parler ? Quelles sont leurs attentes ? Que souhaitent-ils entendre sur leur radio de proximité ? Vont-ils écouter ? Manuela est allée poser la question dans les couloirs de notre établissement.
Comme le disait Emmanuel, un sondage a été réalisé dans la cour du lycée. Plusieurs élèves ont été interrogés sur l'existence de cette radio et la plupart en avaient vaguement entendu parler.
Avez-vous entendu parler de Blaise Radio ?
Oui, vite fait.
Oui, vaguement.
Ouais, j'ai reçu un mail pour ça.
Oui, oui.
Non. Oui, moi j'ai entendu parler.
Non, jamais.
Les avis sont partagés et les attentes très différentes. Certains s'attendent à ce que toutes les informations concernant l'école soient relayées.
Quelles seraient vos attentes envers cette radio ?
Partager des informations très importantes sur l'école.
Des thèmes un peu contemporains, qui touchent l'actualité, etc. pour un peu animer l'école.
Une radio qui donne l'actualité du pays et du monde.
Les actualités qui se passent dans l'école.
Les informations concernant l'administration, de nouveaux projets, etc.
Genre, ils rapportent un peu tout ce qui est important à savoir, surtout par rapport aux réformes, genre les grands mails, genre les grandes réunions qu'il y a.
Tandis que d'autres s'attendent à entendre non seulement tous les majeurs ragots ou potentiels bagarres au sein du lycée, il y a aussi des personnes assez gourmandes espérant avoir des informations sur la nourriture.
Quel sujet ou thème serait intéressant à aborder selon vous ?
La nourriture, la vie de l'école, comment ça se passe à l'intérieur, tous les problèmes que rencontrent les élèves, les histoires des élèves, les bagarres, etc.
La nourriture. Si.
On pourrait estimer que la majorité des élèves écouteront Blaise Radio et seraient intéressés par cela dû aux réponses collectées.
Si ce projet se concrétise, est-ce que vous l'écouteriez ?
Ouais, j'écouterais.
Oui, pourquoi pas, si c'est intéressant,
j'écouterais.
Sûrement, oui.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, parce que je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon école.
Oui, oui, avec plaisir. Je crois pas.
C'était donc l'enquête sur l'intérêt des élèves pour la web radio.
Il faut savoir aussi que le rappeur Youssoupha a d'ores et déjà accepté d'être le parrain de cette nouvelle radio. Pour gossiper un peu, l'après-midi du 30 novembre a été particulièrement spécial pour une élève qui, pour son anniversaire, a été surprise par la présence du rappeur Didi B, qui lui a chanté ses tubes « Chéri Coco » et « En haut », ambiançant la foule qui s'est formée autour d'eux. La précarité mensuelle est un nouveau thème mis à l'avant dans le lycée grâce à la collecte de fonds pour les produits d'hygiène féminin proposée par l'association Ivory Association, menée par les élèves de SIA du lycée. Tout de suite, le reportage de Glory et Nora.
Vous l'avez sans doute remarqué, la banderole à l'entrée du lycée intitulée « Collecte de produits d'hygiène féminine » ou de multiples affiches dans le lycée. La précarité menstruelle était la nouvelle thématique abordée au sein du lycée. Mais tout d'abord, que savent les élèves du lycée sur l'hygiène féminine et les règles en général ?
Donc on a devant nous un groupe de 5 jeunes qui sont, je pense, en 5e.
Okay. Bonjour, mon nom c'est Malek.
Bonjour, mon nom c'est Babacar.
Bonjour, mon nom c'est Touré Ryan.
Bonjour, mon nom c'est Apété Kakou Gabriel de 5e I.
Bonjour, mon nom c'est Mohamed Daoud Ali qui vient de 5e I dans le collège Blaise Pascal.
D'accord. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous savez de l'hygiène féminine ? Est-ce que vous savez ce que c'est déjà pour commencer ?
Pas trop.
Les règles ? C'est quand l'ovule de la femme n'est pas fécondé, du coup elle meurt, du coup il y a le sang qui sort. Ouais.
Moi personnellement je savais pas c'était quoi.
Moi, l'hygiène féminine, je pense que c'est la propreté des toilettes. Et la dernière fois, il y a une fille qui est dans notre classe qui nous a dit que à chaque fois qu'eux ils s'en vont aux toilettes, il y a toujours des papiers de toilettes par terre qui sont sales et déjà utilisés.
C'est quoi la question?
La question c'était l'hygiène. Qu'est-ce que tu sais sur l'hygiène féminine? Est-ce que tu sais ce que c'est?
Je sais qu'il y a du sang qui sort du vagin de la femme quand la femme peut faire des enfants à un certain âge.
Je sais pas.
Tu commences hein?
Ok, bonjour.
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 Je m'appelle Kofi Brian, élève de seconde 6 au lycée français Blaise Pascal et j'ai 15 ans.
Je m'appelle Touré Chris Niel, élève du premier G4 au lycée Blaise Pascal et j'ai 16 ans.
Qu'est-ce que vous pensez des produits d'hygiène féminine en Côte d'Ivoire? Comment vous pensez que ça marche? Les prix, tout ça?
Je pense que par exemple, les lingettes hygiéniques sont... Bon, je pense que les filles utilisent plus spécialement des lingettes hygiéniques.
Des serviettes hygiéniques.
Ah, des serviettes hygiéniques, oui, qui sont disponibles en pharmacie à des prix assez bas, normalement.
C'est quoi ton estimation?
Pour un paquet de, par exemple, 10 serviettes, on peut payer, je sais pas, 2 000, 2 500.
D'accord.
Moi, selon moi, pour un paquet de 10 serviettes, on peut payer 1 000 francs.
Ok. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment accessible pour toutes les femmes en Côte d'Ivoire?
Je pense pas que c'est accessible pour toutes les femmes parce que on a des femmes sans domicile fixe qui vivent dans la rue et ça peut être pénalisant, que ce soit pour leur bébé ou pour elles-mêmes. Et qu'elle n'ait pas les moyens de payer.
C'est pas accessible pour toutes les femmes parce que déjà c'est pas tout le monde qui peut, c'est pas toutes les femmes qui peuvent payer et c'est un peu dangereux pour celles qui n'utilisent pas pour leur enfant ou pour leur propre santé.
Alors, ils ne sont certainement pas représentatifs de tout le lycée, mais en font partie. L'association à l'origine de cette initiative est Ivory Association, qui est une association caritative d'élèves de SIA de la 3e à la terminale. Formée officiellement en septembre 2021.
La raison de cette nouvelle action est altruiste, comme vous diront plusieurs élèves.
Bonjour, je vais vous demander votre classe et vos prénoms.
Bonjour, je m'appelle Anne Kwaku, je suis de la classe 3e I.
Moi, je m'appelle Johanna et je suis en 3e H.
Alors, avant de commencer l'interview, vous nous avez dit que vous avez participé à la collecte de fonds pour les produits d'hygiène féminine. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à y participer ?
Ma motivation pour y participer, c'est que premièrement, c'est mon ami qui m'a parlé du projet. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de collecter des fonds pour des femmes qui sont plus démunies que nous. Et je trouve ça vraiment injuste qu'il y a des femmes qui se promènent dans la rue comme ça, sans avoir les mêmes accès aux produits féminins que moi. Donc c'est ce qui m'a vraiment poussée à participer à l'association.
Bon, moi aussi, il y a une de mes amies qui m'a un peu encouragée. Et aussi... et oui, c'est injuste pour certaines femmes qui n'ont pas accès à des produits féminins.
Ok, donc c'est l'injustice qui vous a motivé à participer à cette collecte de fonds. Mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce qui se passe? Parce que je ne suis pas sûre que les élèves savent exactement. Ils voient juste les banderoles qui sont à l'entrée.
En fait, principalement, cette collecte de fonds sert à réunir plusieurs paquets de produits féminins. Ça peut être des tampons, ça peut être des serviettes hygiéniques, des choses comme ça. Et vous les apportez quand la collecte va commencer, ce qui sera la semaine prochaine, c'est ça. Et nous allons les garder, on va les redistribuer à une ONG qui va les redistribuer à des femmes en besoin.
Présenter ta classe.
Bonjour, donc je m'appelle Koulibaly Madina, je suis en terminale. J'ai 7 et je fais partie de l'association Ivory Association. Donc c'est une association caritative d'élèves de SIA de 3e à terminale. Et du coup, on avait commencé nos actions depuis 2020, mais c'est officiellement en septembre 2021 qu'on s'est formé pour créer l'Ivory Association. Donc pour nos premières actions, tout d'abord, on a commencé par faire des cours d'anglais à une école à Anono, où on leur apprenait l'anglais, on faisait des activités ludiques et on leur offrait aussi des fournitures scolaires. Puis après, on s'est rendu compte que les conditions d'apprentissage dans l'école étaient assez difficiles, étant donné qu'il faisait très chaud dans les salles. Donc on a fait une tombola à l'école et avec l'argent qu'on a récolté, on a installé des ventilateurs dans les salles de classe et dans les salles des profs. Et du coup, cette semaine, du 28 au 9 décembre, on va faire une récolte de produits d'hygiène féminine, du coup des serviettes hygiéniques, des tampons, etc., pour pouvoir donner à une association qui se bat pour les droits des femmes. Et on a un projet qui arrive très bientôt, probablement en fin janvier, enfin à la rentrée en tout cas, après les vacances. Mais là, je ne vais pas trop en parler.
Ok. Bon, qu'est-ce qui a motivé la création de l'association, en fait? C'est l'injustice qui...
Du coup, ouais, je dirais l'injustice. C'est surtout que comme on est des élèves de bilingue, enfin, ouais, de SIA, beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup voyagé, ils ont vécu dans tout type de pays, du coup, ils sont vraiment exposés à tous les problèmes du monde, se motiver, se mobiliser pour ces causes.
Et qu'est-ce qui a mené la création de cette action pour l'hygiène féminine?
Accès. Enfin, nous, déjà, en tant que femmes, on s'est rendu compte que déjà, c'est même pas normal que les produits hygiéniques soient aussi chers. Mmh. Et on s'est rendu compte que si nous-mêmes, on trouve que c'est un peu cher pour des produits hygiéniques féminines, c'est qu'il y a plein de femmes qui n'ont même pas accès à ça et ça peut être vraiment compliqué. Ça peut mener à des infections, etc. Donc, nous, plusieurs femmes et même des garçons, on a décidé de se mobiliser pour ça et faire cette collecte pour pouvoir donner à l'association.
Vous êtes combien dans l'association ici?
Service Learning, je dirais qu'on est une vingtaine. Hein. Ouais, une vingtaine. Et il y a plusieurs groupes en fait. Il y a le groupe environnement, il y a le groupe social media, du coup ceux qui s'occupent de tout ce qui est faire la pub, etc.
Vas-y, continue.
Le groupe fundraising, du coup ça c'est ceux qui font les récoltes, les dons, etc. Et ouais, voilà. Et oui, working with young people, ça c'est ceux qui font. Ceux qui vont à l'école à Nono, etc.
Et toi, tu es dans quel...
Moi, je suis dans fundraising. Et je suis aussi dans social media. C'est moi qui gère le compte Instagram. Du coup, allez vous abonner à Ivory Association sur Insta.
Cette collecte de produits d'hygiène féminine, donc de tampons et de serviettes, a eu lieu du 28 novembre au 9 décembre dernier. Les produits déposés au BVS donnés ont ensuite été confiés à une association de lutte contre la précarité menstruelle. Enfin, pour prendre connaissance des actions passées d'Ivory Association et pour suivre leurs nouvelles initiatives, vous pouvez les trouver sur Instagram, Ivory Association tout en minuscules. De plus, il semble qu'une nouvelle action est en cours.
Le 11 novembre, des élèves du CVC et du CVL ont eu l'opportunité de visiter le camp militaire du Bima, à l'occasion de la signature de l'armistice qui s'est tenue le même jour en 1918. Sans tarder, le reportage de notre invité spécial, Michaela, qui nous présentera le déroulement de cet événement.
En effet, à l'occasion de l'armistice signé le 11 novembre 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, 10 élèves du CVC et 6 élèves du CVL se sont rendus au camp militaire du BIMA pour commémorer cet événement. Lors de cette cérémonie, nous avons assisté au discours d'une générale, puis d'un général. Après quoi, nous avons assisté à une petite cérémonie de commémoration des morts de la Grande Guerre. Ensuite, des élèves du lycée Jean Mermoz ont chanté l'Abidjanaise et la Marseillaise. Puis un élève du lycée Sévigné a récité un poème. Suite à cela, nous avons eu droit à un buffet de viennoiseries, au menu, des mini pains au chocolat, des mini croissants et des chouquettes. Cet événement s'est finalement conclu par une visite des chars, des camions de pompiers et des tanks présentés dans le camp. J'ai trouvé cet événement vraiment fabuleux.
Merci beaucoup pour votre temps et pour votre écoute. Sur ces derniers mots, je vous dis à bientôt sur le journal du lycée.
Passons maintenant à l'invité surprise de Blaise Radio avec nos intervieweurs Maïva et Esteban qui vont maintenant interroger Margherita Boué, si vous l'aviez deviné, l'auteur de la célèbre bande dessinée Aya de Yopougon.
Eh oui, en effet, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Madame Aboué, une écrivaine très sympathique et très drôle qui, vous allez le voir, a une histoire passionnante. Voici son interview.
Bonsoir Marguerite Aboué, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui à Blaise Radio et nous vous remercions tout particulièrement d'avoir accepté parce que c'est notre toute première émission. Alors dans cette interview, nous nous plongerons sur votre vie, sur votre carrière, mais aussi et surtout sur votre œuvre à succès Aya de Yopougon. Pour ne donner que quelques chiffres, Aya a été vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et traduite dans pas moins de 15 langues.
Oui.
Pour réaliser une brève rétrospective de votre vie, il faut donc partir à Yopougon, quartier où vous avez passé une bonne partie de votre jeunesse, avant d'arriver en France, alors que vous n'aviez que 12 ans. Vous êtes très observatrice et très vite, vous prenez l'habitude d'écrire par rapport à ce que vous avez pu voir ou entendre dans votre journée.
Alors, Madame Aboué, je pense que tous vos lecteurs se demandent d'où vient l'inspiration d'Aya de Yopougon.
D'abord, merci pour cette invitation qui me fait bien plaisir. Alors, d'où vient l'inspiration Aya de Yopougon? Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, Aya, ce n'est pas moi. Je suis partie à l'âge de 12 ans de Yopougon, donc je n'ai pas pu vivre toutes ces aventures de ces grandes filles, mais je les ai un peu vécues par procuration, parce que dans ce quartier de Yopougon où je suis née, j'ai vécu avec une grande famille, des cousines qui étaient à la maison, il y avait aussi des voisines, et elles avaient toutes des histoires comme ça, compliquées avec les petits copains, des problèmes avec les parents, et moi j'étais une petite curieuse, donc tout m'intéressait. Je rentrais un peu dans toutes ces maisons pour aller espionner ce que faisaient ces grandes filles. Et puis surtout, comme je suis Akissi, Aya ce n'est pas moi, mais je suis réellement Akissi, je suis la petite sœur d'Aya, et c'était par moi que transitaient les petits mots d'amour là, des voisins. Et à chaque fois qu'ils voulaient sortir avec une des cousines, ils faisaient un petit mot et puis ils me les donnaient. Et donc moi j'avais la mission de donner ces mots aux cousines à la maison. Mais je les lisais avant, sinon ça n'avait aucun intérêt. Je les lisais et après je leur faisais du chantage. Je leur disais, mais je sais que demain soir tu vas rencontrer Mamadou, donc si tu ne me donnes pas pain saucisson ou des bonbons, ben, je les dirai à papa. Donc forcément, j'ai vécu dans ce quartier. C'est le noyau autour duquel je me suis construite. Et du coup, mon imaginaire vient de toutes ces histoires qui ont imprégné mon enfance. Et c'était naturellement que j'ai voulu les faire connaître au grand public, parce que quand je suis arrivée à Paris, je rentre donc en sixième et les nouveaux copains me posaient des questions assez bizarres sur l'Afrique. C'est, est-ce qu'on avait des maisons? Est-ce qu'on a des voitures? Est-ce qu'on va à l'école? Je me suis dit, mais en fait, vous êtes nuls, parce que nous, en Côte d'Ivoire, ben, on sait un peu à peu près comment vivent les Français et pas vous. Donc j'ai commencé à leur raconter d'où je venais, mon enfance, toutes les bêtises que je faisais et donc toutes les petites acquisies.
D'accord. Et comment s'est passé votre retour aux sources, la première fois que vous êtes revenu à Yopougon après être parti en France?
Alors, ça, c'est une belle question. Et en fait, j'ai pleuré parce que quand je suis retournée à Abidjan, c'était 14 ans plus tard. Parce que j'ai pas pu y aller plus tôt parce que j'avais beaucoup de problèmes de papier. Donc il fallait que je régularise ma situation avant de pouvoir voyager. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai ma cousine qui habite dans un quartier très chic qui vient me chercher avec ma mère. Et elle m'accompagne à Yopougon. Donc on roule, et puis à un moment, on arrive dans un quartier, mais avec plein de monde, je ne reconnaissais rien. Tout avait changé. Et j'arrive dans un petit quartier, et puis je demande, et à un moment, elle s'arrête, ma cousine, et puis je demande, mais où est-ce que vous m'emmenez? Mais je suis où? Et ma mère qui me regarde, elle me dit, mais tu reconnais plus ton quartier? Et là, je commençais à pleurer.
Parce qu'il n'y avait plus rien.
Il n'y avait plus rien. Tout était... Parce qu'avant, Yopougon, c'était des dédales assez ouvertes. Et on pouvait entrer chez les uns les autres. Il n'y avait pas toutes ces clôtures. Et aujourd'hui, je ne sais pas, comme dans un peu tout... C'est un peu le visage de tous ces quartiers. Hein. Les gens se sont barricadés un peu tous. Ils ont construit des petites boutiques où chacun vend ce qu'il peut pour nourrir la famille. Et c'est beaucoup plus sombre. Et ce qui était drôle, c'est que ma cousine qui me dit, bon, écoute, je te ramène à la Riviera. En même temps, je connaissais même pas ce que c'était la Riviera, puisque pour moi, il n'y avait que Yopougon dans ma vie. Et le plateau où on m'arrachait les dents une fois par mois. Et donc, je regarde ma mère, je regarde mon quartier, et puis je lui dis, non, je vais rester. J'ai deux jours quand même pour m'en remettre. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir toutes les familles que j'avais laissées. C'était important parce que c'est moi qui revenais du pays au pays. J'étais l'enfant du quartier et je suis rentrée dans toutes les maisons et je me suis ressentie comme avant. Et après, je commençais à traîner dehors.
Donc, est-ce que votre arrivée en France à 12 ans a été vraiment difficile ou est-ce que vous êtes vite adaptée à votre nouvelle vie en France?
Non, alors c'était difficile, mais en même temps je n'étais pas seule, j'étais avec mon grand frère. On est arrivé sans nos parents et il y a un bouleversement énorme. Et en plus on est resté un mois le temps qu'ils fassent nos papiers pour pouvoir aller à l'école. Donc quand moi je suis rentrée à l'école, il y avait déjà un mois de cours et il fallait que je m'impose. Je me souviens quand j'arrive, la directrice m'accompagne dans ma nouvelle classe et puis j'ai tous les yeux là qui me regardent. Et là, je me suis dit dans ma tête, vous allez m'aimer. J'étais une star à Yopougon. Eh bien, je vais être une star dans la cour des récré. Et puis après, je commençais à raconter des histoires. Et je lui racontais même que j'ai chassé les lions dans la forêt avec mon grand-père et tout. C'était là, waouh.
Et ils ont tout cru.
Eh bien, ils croyaient. J'ai une morsure de serpent, une vraie. Je me suis fait mordre. Bah, ce que je raconte ici, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est des vraies histoires. Et j'ai une morsure de serpent et je lui ai montré ma morsure de serpent, mais en échange des sous. Donc j'avais beaucoup d'argent. Et en fait, je viens d'un quartier, Yopougon, où on n'avait pas peur de l'autre, on vivait tous ensemble. Donc il fallait déjà que je m'acclimate avec cette population. Il y a à Yopougon, il y a de toutes les communes, enfin toutes les ethnies. Il y a aussi tous les autres pays africains qui sont représentés à Yopougon. Donc quand tu as la chance de grandir et d'être élevé par toutes ces cultures, mais bien sûr que t'as pas peur même d'être en France et non, parce que tu sais te défendre, parce que t'as pas peur de l'autre, tout simplement.
Vous étiez très ouverte d'esprit.
Oh oui, un peu trop même, à mon avis.
Alors pour revenir à votre œuvre, comment vous avez vécu le succès de Aya de Yopougon?
Assez bizarrement, parce qu'au départ, quand on a sorti Aya, quand j'écrivais Aya, je me suis dit, je fais cette histoire. Je me suis jamais dit, oh là là, mais j'espère que ça va marcher, j'espère que... Non, déjà, j'avais une chance de pouvoir être publié chez Gallimard, une grande maison d'édition. Et puis, le livre sort, je le reçois et je suis assez fière parce que je me dis, waouh, j'ai fait quelque chose sur ce pays tant aimé, sur cette jeunesse heureuse. Et puis, le livre a tout de suite le prix du premier album Angoulême et... coup de cœur de toutes les FNAC en France. Et voilà-t-il pas que je suis invitée à New York, un peu partout dans le monde. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Et c'est là où j'ai commencé à réaliser que peut-être on avait fait quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France et puis même en Europe. Et lorsque l'éditeur m'a dit, faut peut-être penser à faire le tome 2, là, j'ai commencé à être stressée parce que j'avais... un challenge, un défi. Mais sinon, la première fois que le premier tome est sorti, j'étais assez sereine parce que je ne m'attendais pas, en tout cas, je ne m'attendais à rien.
Alors, pourquoi vous avez choisi le format BD pour votre œuvre et pas un roman comme toutes les autres œuvres?
Alors, ce format, c'est Clément Brury, le dessinateur, qui me l'a proposé. Et il voyait plutôt, puisqu'on avait commencé nous avec Akissi. Le premier projet, c'était avec Akissi. Donc, raconter mes histoires d'enfants. Et Clément Aubrerie m'a dit, écoute, moi, je vois tes histoires, mais plutôt dessinées. Et est-ce que tu as des photos de toi petite? Tu as des photos de ton quartier? Donc, je lui ai donné des photos. Avant, j'avais vraiment les tresses là, comme ça. On m'appelait la Tour Eiffel à Paris. Et quelques jours après, il me montre les dessins. Et je trouve ça beaucoup plus percutant, plus drôle, plus ensoleillé. Et j'ai pensé à tous les amis à Yopougon aussi à l'époque. Il y avait aussi des enfants qui n'avaient pas cette chance d'aller à l'école. Et la bande dessinée, c'était le seul livre qu'ils pouvaient eux aussi comprendre, sans savoir lire. Et j'ai dit à Clément, ça me plaît bien, une bande dessinée. Qui aiment ça, même ceux qui ne savent pas lire pourront suivre les histoires.
Alors, est-ce que vous avez déjà été ennuyé que ce soit votre histoire d'Aya qui revienne souvent alors que vous avez eu d'autres œuvres comme Akissi ou le commissaire Kwame?
Non, j'ai même eu Bienvenue. Et Bienvenue, c'est une série qui me ressemble beaucoup plus, même si elle est blonde. Bienvenue, c'est plutôt moi. Mais je suis fière de cette histoire superbe avec Aya, qu'elle soit connue de partout et qu'elle soit une belle ambassadrice de la culture. Et je suis pas trop ennuyée. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'on me compare trop à cette fille un peu trop sérieuse. Moi, je ne suis pas aussi sérieuse qu'Aya.
Peut-être plus comme Akissi. Alors, dans le tome 4, on voit l'arrivée en France d'Innocent.
Oui.
On voit notamment dans ce tome comment il est déstabilisé par rapport à la façon de vivre occidentale. C'est également dans ce tome que ce dernier découvre son homosexualité. Alors, pourquoi est-il important pour vous d'aborder sans trop de tabous ce type de sujet qui, justement, peuvent être assez tabous en Afrique?
Alors, c'est pas dans le tome 4. Hein. Déjà, dans le tome 2, 3, il y avait déjà, au marché, là, il y avait des filles qui se déguisaient, qui mettaient des perruques.
Oui.
Donc, c'est pas en France qu'il a découvert son nouveau sexualité. C'était bien avant. Il est parti de la Côte d'Ivoire parce que, justement, il pensait qu'il ne pouvait pas vivre parce qu'il était différent. Enfin, parce qu'il aimait juste un garçon du même sexe que lui. Et donc, il part comme ça en France. En fait, quand je raconte des histoires, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas, est-ce que ça va choquer les gens? Est-ce que ça va plaire à tel type de personnes? Non. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires qui me touchent, qui m'interpellent, qui me font sourire, qui m'énervent. Et donc, il y a énormément de thématiques que j'aborde dans mes histoires parce que je les trouve nécessaires et tout simplement d'en parler, mais j'ai pas je pense pas à me restreindre, mais en même temps je suis pour la discussion. Je sais que ça peut froisser certaines personnes, quelques sujets comme ça, mais ce que j'aime bien, c'est susciter des débats. On est des êtres humains, si on nous a donné la parole, c'est pour qu'on puisse se parler. Donc j'accepte que ça choque, mais aussi le fait aussi d'en parler, je trouve que ça peut aussi dédramatiser tous ces grands thèmes qu'on nomme tabous.
Voilà. Alors notre dernière question, je pense que c'est la question la plus attendue, pourquoi tant de temps pour sortir le dernier tome? Est-ce que c'était une décision personnelle, un manque d'inspiration, ou vous avez juste des problèmes de logistique?
Non, je pense que... Pourquoi? En fait, on a fait énormément de choses. Pendant 10 ans, on a sorti un tome d'Aya tous les ans. Après, on a fait le film d'animation qui nous a mis quand même 3 ans avec 200 personnes. C'était énorme. Je pense qu'il y a un moment, qu'on arrête Aya parce qu'on vivait Aya, on mangeait Aya, et moi j'ai fait le tour du monde avec Aya. Donc j'ai pas vraiment chômé. Il fallait que j'arrête pour pouvoir justement faire d'autres projets, parce que j'avais des projets d'Akissi, du commissaire Kwame. J'ai fait des séries télé, j'ai fait des longs métrages. Donc il fallait que je fasse autre chose. Voilà, Kaya, j'avais besoin de m'éloigner un peu de cette héroïne, et pour mieux revenir d'ailleurs, parce que 12 ans après, ce fameux tome 7
Je pense qu'on a tous été contents de le revoir.
Déjà de le revoir. Ouais. Très bien.
Alors merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à vous.
C'était donc l'interview assez émouvante de la superbe écrivaine Margherita Boué. À présent, on va écouter Nora, qui était à Majestic, pour voir et récolter des avis sur le film emblématique Black Panther.
Alors récemment, c'était le retour du super-héros Black Panther. Et oui, depuis la triste mort de l'acteur Chadwick Boseman, le Marvel n'avait pas connu de suite. Sorti depuis le 11 novembre dernier, le deuxième film de la saga Marvel s'est révélé être très attendu. Toutes les salles d'Abidjan étaient sold out, il fallait donc s'y prendre tôt pour pouvoir le voir avant de se faire spoiler. Le film de presque 3 heures est décrit comme émouvant et passionnant, mais ne fait pas toujours l'unanimité. En effet, certains spectateurs le jugent comme incomplet. Bonsoir, j'aimerais avoir ton avis sur le film en général et quelle note sur 10 tu pourrais donner.
Bon, moi je vais dire un 8 sur 10, mais je crois que le film y avait trop. Et je crois qu'il n'y avait pas assez de combats et que le film n'était pas assez complet à mon avis.
Merci. Malgré ces commentaires, Black Panther Wakanda Forever reste un bon film avec des critiques positives.
En parlant de critiques positives, celles qui reviennent le plus souvent lorsqu'on évoque le film sont à propos de la bande originale de celui-ci.
Oui, effectivement, la bande originale de ce deuxième Black Panther a reçu énormément de critiques positives. Quelques internautes ont même évoqué le fait d'avoir utilisé l'application Shazam afin de pouvoir avoir le nom des chansons qu'ils avaient appréciées. Et apparemment, l'appli a fait beaucoup d'heureux durant le film. Anna.
La bande originale était très sympa. D'ailleurs, il y en a un qui a Shazamé pas mal de sons. Celui de Bernard et tout, c'était vraiment bien. Donc, je pense qu'ils ont fait une belle bande originale.
D'ailleurs, nous allons maintenant écouter un extrait d'une des chansons qui a reçu énormément de retours positifs. Écoutons un extrait de Lift Me Up de Rihanna, c'est tout de suite.
Mais Nora, j'ai aussi entendu que le film rendait un bel hommage à l'acteur Chadwick Boseman. Peux-tu nous en dire plus ?
Le film était un magnifique hommage à l'acteur, en effet, et avec Rihanna qui lui rend hommage en signant cette bande originale avec Lift Me Up que nous venons d'écouter. Après 6 ans d'attente de ses fans, ce n'est pas rien. En plus de ça, la mort de l'acteur avait suscité la tristesse de certains fans. Ceux-ci ont donc été satisfaits de cet hommage.
Et je suis vraiment contente parce qu'ils ont rendu hommage à Chadwick qui est parti vraiment trop tôt. Donc c'était un film émouvant, comme je dis, c'était passionnant. Et en même temps, c'est un film Marvel, c'était vraiment un film de super-héros. C'était bien.
D'ailleurs, revenons un peu sur le parcours de celui-ci. L'acteur américain était connu pour son interprétation de Jackie Robinson dans 42 et pour celle de James Brown dans Get On Up. Et bien évidemment pour son rôle de Black Panther dans l'univers Marvel. Boseman a également joué dans un certain nombre de productions théâtrales, dont Brief, Romeo et Juliette, Bootleg Blues, Zoom Man et Really Scott and Shine. Il a remporté un prix Odelco pour son rôle d'adolescent EJ dans Urban Transition Loose Blossom en 2002. Une pièce de Ron Miner sur une famille afro-américaine en difficulté attirée par la tentation de l'argent rapide. Bref, l'acteur cumule 20 ans de carrière bien remplie. D'ailleurs, avez-vous été assez attentif pour réparer cet hommage caché ? Attention, spoiler. À la fin du film, l'agent Ross, rappelez-vous, c'était l'agent de la CIA qui collaborait secrètement avec T'Challa dans le premier film, est conduit dans un van immatriculé CB1129-1976, soit les initiales et la date de naissance de Chadwick Boseman. Le réalisateur n'a rien laissé au hasard. En bref, Black Panther 2 est un film qui mérite d'être vu. Et d'ailleurs, il est toujours en salle et en 3D. Vous pouvez le voir au Majestic Ivoire, Majestic Sokossé et Figayo, etc. C'est une occasion à ne pas manquer si vous ne l'avez pas encore vu. Sur ce, on vous dit Wakanda Forever et à la prochaine pour une nouvelle info ciné.
Attends, Nora, tu vas quand même pas partir comme ça. Donne-nous tes impressions sur ce film qui fait rage en ce moment.
Alors, si je devais noter ce film, je mettrais un 7. C'est vrai qu'il était bien, mais pour ma part, j'ai trouvé qu'il n'a pas suscité l'enchantement, entre guillemets, que m'avait suscité le premier film, que c'était du déjà vu en fait. Les costumes et les décors ne produisaient pas le même émerveillement que lors du premier film, puisque ça avait déjà été vu. Et je trouve aussi qu'il n'y avait pas de réels enjeux dans l'histoire. Malgré ce que je viens de dire, ça reste un bon film. Peut-être pas le meilleur, mais pas le pire non plus. Allez, cette fois, c'est vraiment l'heure des au revoir. À la prochaine!
Et bah, les avis sont très partagés. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film. En plus, il m'a permis de découvrir la merveilleuse chanson de Burna Boy, Alone. On se retrouve tout à l'heure après la pause musicale.
So not a fight for my life, it's alright, because everything dies, nobody know why. What in I go do? What in you go do when you're feeling like you're falling and you can't find nothing to hold on to?
DJ Glory pour ce mix assez spécial de Burna Boy Alone.
Nous venons donc d'écouter Alone de Burna Boy, mais nous allons maintenant passer à la chronique internationale de Lola. Bonjour Lola.
Bonjour Michaela.
Tu vas maintenant nous parler d'un sujet un peu plus sérieux, notamment les violences policières en Iran et la triste mort de la jeune étudiante iranienne Mahsa Amini.
Exact. En Iran, Mahsa Amini, une étudiante iranienne de 22 ans, est morte le 16 septembre 2022 à Téhéran, trois jours après avoir été arrêtée par la police pour port de vêtements inappropriés. En effet, elle a mal porté son voile dans un espace public. Mais l'a-t-elle fait exprès ou un coup de vent ? Personne ne le sait.
On n'a pas plus d'informations sur sa mort, mais la police affirme que l'étudiante a soudainement souffert d'un problème cardiaque et a été directement transportée à l'hôpital, où elle est morte après 3 jours de coma, sans qu'il y ait eu auparavant de contact entre la police et la jeune femme. Mais cette version est remise en cause par de nombreuses personnes qui accusent la police de mauvais traitements ayant entraîné sa mort.
Mais que pense la population de tout cela ?
De nombreuses personnes ne sont plus d'accord avec le régime sexiste de leur président et plusieurs séries de manifestations se sont produites et se produisent encore dans tout le pays. Celle-ci commence le 16 septembre après la mort de Mahsa Amini et près de 90 000 personnes y participent en hommage à la jeune étudiante. Mais la répression du régime est violente car 356 personnes sont mortes et environ 1160 blessées.
Et où se sont déroulés tous ces rassemblements ?
Ils se sont étendus dans les jours qui ont suivi dans plusieurs villes de la province du Kurdistan, dont la capitale Sanandaj, puis plus largement dans plusieurs des villes principales du pays, dont Téhéran et Mashhad.
Mais maintenant, trouves-tu que tout le monde a changé ? Trouves-tu que le monde a changé et qu'en penses-tu ? Tu n'aurais pas plus d'informations sur ce qui se passe pendant ces révoltes ?
Justement, oui. Les manifestants, hommes et femmes, dénoncent les violences des autorités exercées contre les femmes. De nombreuses manifestantes enlèvent leur voile, qui, je rappelle, est obligatoire. Elles le font pour protester contre le régime de leur président, Ebrahim Raisi. Les manifestants se rassemblent dans les villes, crient et peuvent casser et brûler des objets de la ville.
Et trouves-tu maintenant que le monde a changé ? Et qu'en penses-tu ?
Avant, les hommes étaient les chefs de famille, les seuls pouvant accéder au trône. Ils avaient plus de droits. De nos jours, cela a changé et les hommes sont égaux aux femmes, dans la plupart des nations. Mais dans certains pays, comme l'Iran, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Mais même dans tous les pays, des traces de cette ancienne période existent toujours. Voici quelques exemples. Dans la grammaire simple, quand il y a plusieurs personnes de genre différent, même s'il y a 20 filles et un garçon, on dira « il ». Ou bien, au mariage, la femme prendra le nom de son mari et leur enfant aussi, etc. Grâce à ça, j'espère que les femmes auront plus confiance en elles et sauront qu'elles sont égales aux hommes. Car ce n'est pas pour rien que la femme n'a une journée rien qu'à elle. Les féministes se multiplient. Donc vive l'égalité entre les hommes et les femmes.
Merci beaucoup Lola pour cette chronique. Enfin, voici Imane qui va nous parler de son oncle Romuald Azoumé. C'est un artiste, plus précisément un plasticien. Tu peux nous en dire plus ?
Alors oui, mon oncle Romuald. Je ne le connais pas personnellement, mais mon grand-père, lui parlait beaucoup. Malgré cela, je l'admire. Je l'ai découvert vraiment parce que ma famille et moi, on voulait connaître ses œuvres. Mon autre oncle, le frère de ma mère, avait décidé qu'on irait tous au musée des Ducs de Bretagne à Nantes.
Tu peux nous décrire ses œuvres avec plus de détails, s'il te plaît ?
Eh bien, il faut savoir que certaines de ces sculptures sont faites avec des bidons. Ces bidons sont empilés les uns sur les autres, alors oui, on peut dire qu'elles sont grandes et imposantes. Dans les musées, les sculptures étaient entreposées dans une grande salle avec quelques tableaux à côté.
Dans tout ça, quel est ton avis personnel ?
Je dirais que pour moi, l'écologie a une grande place dans ces sculptures, que les œuvres sont bien imaginées et qu'en regardant ces œuvres, j'ai pu quand même constater quelques répétitions. Par exemple, dans une première œuvre, il y avait des perles sur les sculptures et dans celle d'après, il y en avait sur les côtés. Mais je suppose que c'est plutôt normal.
Mais dis-nous, y a-t-il des points communs entre toi et ton oncle ?
On ne se ressemble pas physiquement, mais lui et moi sommes nés la même année, la même date. Bien sûr, pas la même année. Il est né le 7 février 1962 et moi le 7 février 2011. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Merci beaucoup pour ce petit moment de partage.
Alors voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à ceux qui sont restés à l'affût. N'hésitez pas à commenter vos impressions ou avis sur l'émission ou les différentes chroniques sur notre Insta, Blaise Radio, tout en minuscules. Et surtout, à la prochaine émission, les Blaisiens ! C'était Manuela
et Michaela
dans Blaise Radio.
Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté notre émission et à la prochaine pour une nouvelle émission avec Blaise.